Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 82e épisode de Torréfaction, votre rendez-vous hebdomadaire avec notre sélection de l'actu, une sélection que je présente avec mon ami Caf. Salut Caf.
Hello Faskil.
Est-ce que ça va bien?
Écoute, impeccable, tout va bien.
T'as fait du rangement, j'ai cru comprendre.
Oui, ne faites pas ça, c'est nul. N'hésitez, quand vous avez une idée en vous disant je vais m'occuper, je vais faire la poussière sur mon bureau, c'est les conneries, il faut laisser tout crade. Comme tu l'as vu, ça m'a pas porté chance cette semaine.
Non, on a failli pas avoir de podcast parce que hier tu m'as annoncé que ton hub USB ne fonctionnait plus et que c'était la merde.
J'avais plus rien qui marchait.
Et l'enfer. Forcément, il n'était pas branché, donc ça n'aide pas, évidemment.
Voilà, alors j'explique en 3 secondes, mais quand on fait la poussière sur un bureau, il y a autant de bordel que sur le mien. On bouge des choses, j'ai des écrans sur des bras avec des câbles dans tous les sens, et évidemment, il y a des câbles qui subrepticement font
genre.
Si je me débranchais, mais pas complètement, comme ça il le verra pas. Et puis après tu cherches pendant 10 minutes avant de piger que c'était pas du tout là où était, où tu pensais qu'était le problème.
C'est
bref
ça.
Tout va bien, mais j'ai eu plein de petits soucis comme ça qui ne marchaient pas, ou Fasque qui s'entendait quand j'ai rallumé le truc tout à l'heure.
C'est ça. Bref, on est là, tout va bien, et on est parti avec notre section gaming. On va commencer par un truc pour les nerds, avec des nouvelles de Dwarf Fortress. Je croyais que ce truc était mort, mais en fait, moi, apparemment, ça vit toujours.
Ah, mais ça vit super bien, en fait. C'est-à-dire que les gens normaux ne savent même pas que ça existe,
c'est ça.
Et les fans sont en mode, genre, ils savent à quelle heure vont manger les frangins qui font ce jeu depuis des années. Donc, Dwarf Fortress, pour vous expliquer rapidement si vous débarquez, c'est une simulation de la vie de petits nains, d'une colonie de nains, qui donc sont au début d'une partie en fonction des paramètres de la carte que vous avez implémenté dans une montagne, et il va falloir s'occuper d'eux, mais il leur arrive plein de trucs, il faut qu'ils trouvent de la bouffe, du bois, des métaux, sinon ils vont crever, ils vont avoir froid et tout.
C'est
mais
quoi, c'est de la strat?
C'est pire que de la strat, c'est de la strat et de la simulation en même temps, si tu veux.
C'est du micro-management.
Tu vois, ils peuvent être dépressifs, tes putains de nains, tu vois, ils peuvent leur arriver des trucs de ouf. Alors, ça a l'air génial sur le papier comme ça, sauf que c'est complètement invitable pour les gens normaux puisque c'est entièrement en ASCII, c'est-à-dire avec des petits caractères qui représentent à chaque fois, bah ça c'est un arbre, alors toi tu vois un signe cabalistique, tu fais genre ok,
ça
d'accord.
Rappelle le premier Ultima.
Franchement, le premier Ultima c'était de l'art à côté, c'était de la HD hein. Non là c'est hardcore en termes de design et il faut vraiment pouvoir se plonger dedans, donc en plus ça prend des ressources parce que comme c'est une vraie simulation et que tous les trucs sont simulés, la vie de chaque nain etc, c'est un bordel. L'ordinateur il est là genre ok, du calme, il faut que je m'occupe de tout ça, je vais pas en plus m'afficher des graphismes hein. Donc c'est assez complicado et c'est vrai qu'en termes de prise en main il y a plus simple. Alors moi j'adore le concept, j'ai essayé de m'y mettre plein de fois et franchement j'ai du mal parce que j'avoue j'ai du mal à me projeter. Faut aller voir un screenshot ASCII du truc, c'est un peu compliqué.
Je te confirme, c'est un peu ardu.
Donc dans nos potes on avait un ami Fumble qui écrivait des chroniques carrément sur ce jeu sur Gameblog et qui a continué pendant hyper longtemps et ça donnait envie à plein de gens de s'y mettre, et quand il lançait le jeu ils étaient là genre Fumble, faut qu'on parle, ce n'est pas ce que tu m'as vendu. Donc il faut savoir que ce jeu est développé donc par deux frangins à la base et qu'il y en a un qui se bat contre le cancer depuis très longtemps et qui ont donc ils ont des frais, ils ont un Patreon qui leur permet de faire avancer cette version entièrement gratuite, mais ils se sont dit bon là les gars il serait peut-être temps qu'on gagne de l'argent, et ils tentent un truc donc qui est pas stupide du tout, c'est que ils se sont dit ok, on va le mettre sur Steam, et pour pouvoir le mettre sur Steam il faut une version un peu plus polish, un peu plus jolie, et donc ils sont associés avec des gens de la communauté, des boîtes qu'ils connaissent depuis longtemps etc, pour faire une version avec des graphismes un peu plus sympas. Dans le langage du jeu on appelle ça un tileset. En fait le jeu est complètement ouvert au mode, il y a déjà des gens qui pouvaient bricoler le jeu pour lui donner un look beaucoup plus sympa que ce qu'est son look par défaut. Donc là ils ont décidé de faire une version avec des graphismes spécifiquement créés pour ce nouveau projet, et la bonne nouvelle c'est que le truc qui va être payant reste donc sur Steam, mais ils gardent la version gratuite. Donc la version ASCII continue d'être développée, va continuer sa petite vie à côté, et les deux versions vont avancer en parallèle avec le côté un peu plus grand public on va dire sur Steam, qui va leur permettre de gagner de l'argent, parce qu'il y a un des frères qui disait voilà, le problème c'est que moi s'il m'arrive la moindre chose, malgré comme on est frangin, statistiquement cette saloperie de cancer, pourquoi pas. Et si jamais moi j'ai un problème un peu grave, bah on aura zéro thune instantanément, vive les États-Unis. Donc les mecs se sont ont décidé de faire ça en essayant de en espérant en tout cas que ça va leur rapporter suffisamment d'argent pour être tranquille pour les années à venir.
Bah c'est win-win hein, d'un côté t'as les gens qui veulent payer peuvent payer maintenant pour une version un petit peu plus et puis à côté de ça ceux qui ont pas de thunes et qui veulent continuer à jouer gratos peuvent continuer à jouer gratos, je trouve ça plutôt bien.
Exactement. En plus les mecs ont une communauté de ouf avec des gens qui adorent même s'ils comprennent rien au jeu, qui sont là genre mais écoutez les mecs, moi je vais l'acheter, je vais pas y jouer mais je m'en fous, je suis là. Donc c'est assez rigolo. Donc je vous ai mis dans le billet qui accompagne le podcast comme d'habitude la news de RPS Rock Paper Shotgun et le post Patreon qui explique les raisons de la création de cette nouvelle version. C'est extrêmement complet et puis vous allez voir en même temps les screenshots de la bêta qui va débarquer en 1901 par 1080 monsieur. L'HD est là. Ah oui, il faut savoir en fait je dis que ça sort sur Steam mais ça sort aussi sur itch.io, donc si vous êtes allergique à Steam et que vous voulez un truc pas j'allais dire gratuit justement pas gratuit mais ouvert, ouais. Vous pouvez aller sur itch.io pour aller choper cette version quand ça sera dispo. Il n'y a pas de date ferme annoncée mais on va suivre ça de près quand ça sera disponible, on vous en parlera.
On va passer du côté de PlayerUnknown Battleground et peut-être pour la dernière fois en fait.
Oh non, tu dis ça, non c'est méchant. Non, on va parler de PlayerUnknown qui est le papa de PUBG.
D'accord.
Qui avance doucement vers le placard après 3 ans sur PUBG justement. Vous savez, c'est le monsieur qui est à l'origine du jeu puisque ça s'appelle PlayerUnknown Battleground, vous aviez suivi quand même. Hein. Mais on va dire que la communauté est divisée sur l'intérêt de garder ce monsieur à la tête du projet depuis longtemps. En fait, derrière les rideaux, on sait que c'est l'équipe coréenne qui gère le produit depuis maintenant un bon paquet de temps. Il avait promis pas mal de trucs, entre autres des modes, etc., qui sont jamais arrivés dans le jeu. Et bon, j'imagine que le monsieur est un petit peu frustré aussi. Mais du coup, il quitte Séoul pour aller à Amsterdam où il va gérer, alors un truc, j'adore le nom gonflant, mais il va gérer les PUBG Special Project. Okay. En gros, ils vont faire, à mon avis, des tests, des essais pour savoir quel va être le prochain gameplay rigolo. Qu'est-ce qu'il y a après le Battle Royale, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut rajouter à un Battle Royale pour le rendre un peu plus sexy. Parce que là, je vous cache pas qu'on commence à tourner en rond. Je pense que même il y a des gens qui ont découvert que ramasser des flingues par terre, même dans Apex, au bout d'un moment, c'était un petit peu relou. Donc on verra bien ce que ça donne, mais l'annonce du départ est plutôt bien passée dans la mesure où bon, on sait déjà qui gère le produit et qui va continuer de le gérer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il avance vers le placard, parce que j'ai un peu l'impression qu'ils sont en train d'essayer de se dire bon ok, on a mis son nom sur la jaquette, c'est peut-être pas une grande idée pour s'en débarrasser, ça va être compliqué. Du coup, je sais pas du tout comment ils vont gérer la suite, mais bon, ça râle pas mal, y compris dans notre communauté. Hein, si vous êtes sur notre Discord, vous savez qu'on a des fans de la première heure qui sont un petit peu dégoûtés de la gueule du jeu actuellement. On a notre titan national hein, qui ponce le jeu tous les soirs, qui lui est là, il est présent.
Irréductible.
Mais c'est vrai que sinon, bon, bah là, il y a quand même pas mal de gens qui se sont échappés, entre guillemets. Moi, le premier, bon, on verra bien ce que ça donne à terme, mais effectivement, on a du mal à se remotiver, surtout quand tu relances le jeu après une partie d'Apex, tu fais genre, je comprends pas pourquoi tout est au ralenti, qu'est-ce qui se passe. Mais après, c'est vraiment deux styles totalement différents. Ouais. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner à terme.
Allez, moi, je voulais vous parler de Baba Is You. Parce que on avait passé le test sur Gamekult chez nos amis de Gamekult et le concept m'a intrigué, et puis toi aussi, puis c'est toi qui m'as dit tiens on devrait peut-être regarder un peu ce que c'est, ça a l'air rigolo même si c'est pas très joli.
Alors moi j'ai mal à la tête en lisant le test, hein, vous allez comprendre pourquoi.
Donc récap, Baba Is You à la base c'est un puzzle game développé par un petit finlandais tout seul qui s'appelle Arvi Tekari alias Mpouli, et à la base ça avait été développé pour une game jam, la Jam Build, qui est une game jam nordique qui avait lieu en 2017. Faut savoir qu'il y a une version gratuite tirée donc de cette game jam qui existe toujours, qui est toujours disponible en ligne pour ceux que ça intéresse. Et puis bah il s'est dit en fait là j'ai un concept, j'ai un truc manifestement qui intéresse les gens, donc je vais essayer d'en faire un truc un peu plus pro et que je vais vendre. Donc bah voilà, il a sorti une version pro sur Steam le 13 mars dernier pour 12,49€. Alors le concept, on va essayer de vous expliquer ça clairement et en peu de mots.
Bon courage.
C'est un puzzle game donc un peu à la Sokoban. Je sais pas si tu te souviens, Sokoban c'était le truc où il fallait déplacer des caisses en tu pouvais les déplacer que si t'étais sous la caisse ou derrière la caisse, en fait. Donc, tu peux pas tirer des caisses, par exemple, depuis.
Ouais, tout à fait.
Voilà. Donc, et là, sauf que tu vas rajouter une difficulté supplémentaire qui est que tu vas jouer avec les éléments du décor en fonction de ce que moi je qualifierais d'espèce de mini langage de programmation. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Tu déplaces ton petit bonhomme avec les flèches. Tu dois aller du début du niveau à la fin du niveau qui est représenté en général par un drapeau. Tu peux, c'est du tour par tour, donc tu peux mettre en pause avec la touche espace pendant ce temps-là, l'univers, l'environnement continue de fonctionner. Le twist, c'est qu'en fait, elle est constante, donc tu as des petits descriptifs sur la map, par exemple, wall is stop, ça veut dire que les murs vont te bloquer, en fait, tu peux pas les traverser, et tu peux changer ces textes, en fait, pour modifier le comportement des éléments. Donc, par exemple, si tu as un stop, tu peux le virer, et tu peux, à partir de là, du coup, passer à travers les murs. Tu as aussi, par exemple, les rochers, rock, par défaut, c'est rock is push, donc ça veut dire que tu peux pousser les rochers, mais tu peux remplacer le push par un you, et donc dans ce cas-là, ça devient rock is you, et tu contrôles les rochers en fait plutôt que ton personnage. Donc voilà, t'imagines, les possibilités évidemment de gameplay sont assez folles, avec un principe qui est finalement très très simple. Je donne un exemple très clair, y a un niveau par exemple avec une porte, avec des murs tout autour du niveau, et donc l'idée c'est que tu prends les mots, tu fais wall is shut, ça veut dire que le mur est fermé, star is key, ça veut dire que tu transformes la petite étoile en clé, et après tu peux ouvrir le mur avec l'étoile comme si c'était une porte en fait. Donc je te laisse imaginer les réflexions qu'il faut faire sur chaque niveau pour essayer de s'en sortir. J'ai metté un petit walkthrough tout à l'heure d'un gars qui s'y essayait pendant 10 minutes et qui devenait complètement cinglé à la fin, parce qu'évidemment les possibilités sont folles quoi. Enfin, à partir du moment où tu commences à faire plein de mots dans tous les sens et des éléments de décor et tout, sans compter que le décor évolue aussi au tour par tour, donc il faut prendre ça aussi en considération. C'est un peu foufou, c'est pas très joli, mais franchement tout le monde a l'air d'être tombé complètement amoureux du principe, aussi bien sur Gamekult que chez nos amis de Factor News. On vous linkera d'ailleurs les deux tests, il y en a un qui est payant chez nos amis de Gamekult et puis l'autre gratuit chez nos amis de Factor News. Donc voilà, c'est le genre de jeu qui mériterait, comme tu le disais, à débarquer sur mobile, parce que typiquement c'est le genre de truc, tu peux te faire un petit niveau très vite ou pas,
ou pas d'ailleurs, hein.
Dans le métro.
Mais moi je le veux sur iPad, voilà. Ça serait tellement mortel quoi.
Baba is You, donc on vous linkera donc tout ce qui va bien pour en apprendre un peu plus sur le titre, qui est donc à 13€, un peu moins de 13€ sur Steam. Tu voulais dire un truc?
Ouais, je pense que le truc qui m'a fait le plus rire, c'est que les deux tests se parlent, en fait, ça renvoie la balle entre Factor News et Gamekult. Tu sens que les mecs ont été sur Discord en mode genre groupe de soutien. Et toi, comment tu fais? Parce que là, j'y arrive pas, je comprends plus le jeu. Et j'ai regardé effectivement des niveaux, il y a des trucs, ton cerveau implose parce que les possibilités sont juste, tu les comprends pas, en fait. Faut appréhender le jeu et chaque niveau d'une manière ouverte d'esprit. Je sais pas comment vous dire ça. C'est ça, parce que quand tu regardes le niveau, tu fais, je comprends pas comment c'est possible. Et après, j'ai regardé le fonctionnement du jeu et j'ai fait genre, oh putain, les enfoirés. Et effectivement, donc l'autre a eu une idée géniale et l'a mis en pratique de très belle manière. Je suis assez fan.
Moi, ce que je vous recommande, je vous le linkerai aussi, c'est d'aller tester la version gratuite qui est téléchargeable. Elle fait 2 mégas. Et comme ça, vous pouvez voir un peu le concept. Et si le concept vous accroche, eh bien, vous passez à la version payante, un petit peu améliorée, qu'on trouve sur Steam. On reste dans le gaming.
Et Switch.
Oui, exact. Ouais, tout à fait.
À mon avis, ça, d'ailleurs, c'est pour ça que je râle et qu'il soit pas sur mobile. Parce que la version Switch est assez, à mon avis, ultime et par contre assez dangereuse pour la Switch, forcément, parce que vous allez la balancer comme si c'était un paddle et ça va vous coûter un peu d'argent, c'est tout.
Allez, on reste dans le gaming et on passe du côté de Warframe avec un nouveau Battle Pass.
Oui, parce que les Battle Pass, c'est à la mode. Qui n'a pas son Battle Pass? Qui veut son Battle Pass? Et bien, Warframe veut son Battle Pass. Ils avaient un système de quête qui était un petit peu redondant, un peu qui devenait un peu chiant. Et du coup, ils se sont inspirés de ce qui existe un petit peu partout avec un nouveau truc qui s'appelle les ondes nocturnes, qui est ultra bien scénarisé et mis en avant, comme souvent dans Warframe. Ils font un super boulot sur leur jeu pour le faire évoluer et lui donner des petits trucs sexy de plus en plus modernes, qui en fait est le même système que les Battle Pass classiques. C'est un système de missions qui vont être dispo tous les jours et toutes les semaines, il y en a un peu des deux, et vous pouvez faire ça de manière un peu casu, puisqu'on n'est pas obligé de faire le Battle Pass à 100% pour récupérer tous les items qui sont là pour vous faire jouer, parce que je rappelle que le vrai but d'un Battle Pass, c'est de vous faire rester à la maison, c'est de vous faire jouer à leur jeu. C'est pour ça que Fortnite met l'accent sur leur Battle Pass. C'est pas autant l'argent qu'ils gagnent avec qui est intéressant pour eux, c'est le fait que vous n'alliez pas voir ailleurs, et c'est un peu la guerre de tout le monde en ce moment, c'est que les gens sont en train de se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de moyens de divertissement sur cette planète et que les journées font toujours 24 heures très connement et que des fois il faut dormir en ce moment, même si nous on oublie parfois, c'est pas bien, ne le faites pas. Et du coup ce Battle Pass est un peu moins exigeant que les autres, ça se fait tranquillou, et quand vous êtes level 30, vous avez tout débloqué, vous attendez attendez la prochaine saison entre guillemets, qui à chaque fois donc va être scénarisée, et c'est plutôt bien fait. Toi, ça t'aimerait bien, parce qu'en fait ils ont fait tout un système de DJ, de radio interstellaire, de radio galactique, et t'as une nana en fait qui donne l'émission comme ça, avec une mise en scène qui est plutôt simple. C'est, on voit juste, il y a pas grand chose en fait, mais l'ambiance est plutôt bien foutue. Je suis assez fan de ce qu'ils ont fait, et j'en profite pour aussi dire que la semaine dernière, dans leur gros patch qui a amené ces trucs là, était sorti aussi un revamp, donc un, comment on dit en français, revamp, hein,
ils ont refait. J'ai envie de dire un remix, mais ça va pas vous aider.
C'est bizarre, je vois pas pourquoi t'as envie de dire ça. Ils ont refait le système de combat en mêlée, donc corps à corps, et c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile à manier, et la transition entre les armes de points classiques, les guns, etc., et vos armes épées, enfin il y a un milliard, hein, ça va du ton de fa à la grosse hache, hein, ils sont très 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 prolixes au niveau des armes de mêlée, et là, franchement c'est beaucoup plus agréable à jouer, et rien que pour ça, si vous avez toujours eu un petit soft spot pour Warframe et que vous aviez quand même un petit griff contre le gameplay qui vous agaçait, bah rejetez un oeil, hein, c'est toujours gratuit, et puis franchement je pense qu'ils ont fait du bon boulot, et c'est la première passe sur cette histoire de gameplay, de mêlée, etc. Il y a encore une phase qui est prévue pour continuer d'améliorer tout ça, donc gardez ça sous les yeux.
Les ondes nocturnes donc pour Warframe, et puis on termine cette section gaming avec une petite news en vitesse pour vous annoncer qu'on peut désormais streamer les jeux Windows sur Xbox One via l'app Wireless Display de Microsoft. Alors c'est un peu similaire au Steam Link dans le fonctionnement, on installe l'app sur les deux devices, on fait touche WinP, enfin Win plus P sur le PC, et hop c'est parti, vous pouvez streamer vos jeux sur votre Xbox One. Alors a priori on a des gens qui ont testé pour nous, notamment notre ami Balti sur le Discord, qui nous dit que donc a priori ça ne supporte pas le clavier et la souris pour le moment, c'est au pad only, mais on peut émuler donc la souris avec le pad en appuyant sur la touche home et start, donc ça va, et puis il nous donnait son feedback à chaud sur ses essais, et il nous dit que donc voilà, ça a l'air relativement plus stable que le Steam Link, avec des performances similaires et une meilleure réactivité selon lui du joypad. Il a testé tout ça en wifi et ça marchait plutôt bien, donc voilà, si vous voulez essayer de streamer vos jeux Windows et que vous avez une Xbox One, vous pouvez le faire maintenant directement avec l'app. Ils sont quoi? Ils sont 10.
Ouais.
On passe du côté des apps avec une mauvaise nouvelle du côté de Dropbox, puisqu'on a appris cette semaine que Dropbox avait décidé de limiter désormais ses comptes gratuits à 3 appareils. Alors, c'est une annonce qui a été faite un petit peu en ninja, hein. On l'a vu passer.
Bah, tu
mais
m'apprends en plus.
Voilà.
Donc, moi, j'apprends que je prenais une carotte aujourd'hui, j'étais pas au courant, donc j'imagine que ceux qui nous écoutent non plus, vous allez adorer.
Alors donc, comme je le disais, c'est une limite qui s'applique aux comptes gratuits. Pour en avoir plus, donc pour avoir plus de 3 devices, il faudra désormais passer à la caisse avec un minimum donc de 8,25€ par mois, c'est le plan le moins cher chez Dropbox.
Ouch.
Alors petite info pratique pour les gens qui ont linké plus de 3 devices avant mars 2019, il n'y aura pas d'impact, c'est-à-dire que Dropbox ne va pas supprimer les devices qui sont déjà enregistrés, mais bien évidemment le jour où tu vas changer ta tablette ou ton téléphone, et ben tu l'auras dans le baba, il faudra à ce moment-là faire le tri et te limiter à 3 devices. Ça n'a pas l'air de concerner les browsers, donc c'est uniquement pour les apps, donc ça c'est plutôt cool aussi, on va dire, ça te permet quand même malgré tout de continuer à accéder à ta Dropbox de partout. Voilà, clairement c'est une volonté de Dropbox de se faire de la thune, hein, parce que les chiffres que moi j'ai sont pas top, hein, puisqu'apparemment 2,5% de leurs utilisateurs à peine seraient des utilisateurs payants, donc il y a un moment effectivement le business plan il faut le revoir, et c'était forcé que ça passerait par ce genre de limitation.
Parce que quand même il y a un truc qui est ultra pénible, c'est quand ils annoncent 3 devices, évidemment ça compte les mobiles, donc ouais, les applications sur vos téléphones et tablettes, on vient de le dire, mais c'est clairement pour mettre le couteau sous la gorge, dans la mesure où si vous êtes un utilisateur un tout petit peu avisé, vous avez au moins un téléphone, un ou deux ordi, et donc voilà, ça y est, c'est fait.
Ah ben, même moi qui suis pas un gros usager du service, j'ai mon PC fixe, mon laptop, mon téléphone et ma tablette, et donc il va déjà falloir que je fasse un choix.
Voilà, donc moi je sais, je dois en être à 9 là, avec les divers conneries, donc je me suis dit, tiens, ça va être rigolo, quand je vais regarder pour faire le tri, ça va pas me faire rire, et du coup, bon après je les comprends, hein, 2,5%,
oui,
c'est pas beaucoup.
C'est pas
et
beaucoup.
Firefox Sand, c'est fait, un truc, je sais pas si on avait pas parlé de la bêta de ce projet,
c'est bien possible.
Mais ça y est, c'est officiel. Donc là, c'est bon, c'est pas un Dropbox-like, mais ça peut rendre des gros services. C'est surtout un concurrent de cette bouse que j'ai jamais aimé.
WeTransfer.
De WeTransfer. Je sais pas pourquoi WeTransfer, ça m'a toujours saoulé. Peut-être parce que c'était lent et moche.
Je pense que c'est surtout ça, oui.
Et du coup, Firefox Send, bah, ça évidemment utilise Firefox. C'est une bonne raison pour utiliser cet excellent navigateur, n'est-ce pas? Qui, du coup, maintenant va vous permettre d'envoyer des fichiers de jusqu'à 2,5 gigaoctets de manière extrêmement simple, puisque vous envoyez le fichier directement par le service de Firefox Send, on vous mettra le petit lien qui va bien dans le billet qui accompagne le podcast, et vous pouvez décider de le laisser en ligne le temps qu'il faut pour que les gens puissent le récupérer, mais vous avez le choix, hein, ça peut être 5 minutes, 1 heure, 1 jour, 1 semaine, mais pas plus. Donc on est vraiment sur du partage avec une temporalité ferme, entre guillemets. Firefox n'a pas l'intention d'avoir des serveurs qui hébergent des téraoctets de trucs qui ne sont plus du tout utilisés, et en prime, il y a un maximum de téléchargement, c'est-à-dire que vous pourrez pas dépasser les 100 téléchargements. Donc c'est entre 1 et 100. Bah c'est pas mal, et puis surtout ça va éviter d'avoir mine de rien des trucs pirates qui se baladent partout, et du coup Firefox n'aura pas à faire le ménage sur les différents fichiers qui vont être uploadés pour utiliser ce service. Donc c'est un truc gratuit qui est ultra utile, qui va venir concurrencer des produits qui végétaient et qui étaient pas non plus ultra bien fichus, on va pas se mentir. Donc je suis plutôt content de voir ça. Je l'ai pas encore utilisé, mais a priori les retours que j'ai vus sur le net sont plutôt bons, avec pas mal de gens qui disent que ça va quand même suffisamment vite. Donc je ne sais pas, comme c'était les tout débuts là hier, peut-être que ça s'est gâté depuis, mais si Firefox a ouvert les vannes, enfin en tout cas si Mozilla a ouvert les vannes, c'est que ça doit être gérable.
Allez, on passe du côté de la culture. Tu voulais nous parler d'Amiga, évidemment.
Ah, ça fait longtemps,
hein. C'est vrai, hein, en fait ça fait longtemps.
Un petit jeune d'à peine 40 balais. Non, cet ordinateur commence à avoir un certain âge. C'était pour la blague. C'est parce que je suis tombé sur une vidéo cette semaine qui, en fait, une série de vidéos qui parle des effets spéciaux, de l'histoire des effets spéciaux à la télé, au cinéma, etc. Qui est fait par une chaîne qui s'appelle VFX Geek et qui a un épisode dédié à Amiga et Babylon 5. Qui est en fait, tous les fans de l'Amiga savent que tous les effets spéciaux, les vaisseaux, etc., les scènes dans l'espace de Babylon 5 étaient faites sur Amiga, mais là on a de la bouche des créateurs et des mecs en charge du projet, pourquoi le choix de l'Amiga et avec quoi ils ont vraiment travaillé, etc. Donc c'est plutôt intéressant pour les fans, c'est un petit Madeleine de Proust pour les fans, et puis un vrai morceau d'histoire pour les fans d'informatique. Et en prime, je vous mets un autre lien avec un truc qui est c'est assez violent à regarder, hein, je vous le cache pas, ce qui est la soirée de lancement de l'Amiga 1000. Alors comment dirais-je, c'est une expérience. Le début de la vidéo, enfin, mais qu'est-ce qui m'a linké le caf là, avec une espèce de mec qui joue du trombone et tout, un orchestre qui, tu vois, tu te demandes si c'est un enterrement ou une soirée de lancement, c'est un petit peu bizarre. Et c'est une soirée de lancement des années 80, c'était différent, et tout le monde n'était pas Steve Jobs, donc c'est un petit peu compliqué à regarder. Je vous conseille pas de tout vous enfiler, mais vous, franchement, si vous êtes un fan d'informatique, faut vous remettre dans le contexte de l'époque, c'était juste une putain de révolution. Et à la toute fin, il y a la fameuse présentation de Andy Warhol qui fait sa première peinture qui est reprise après sur Amiga à toutes les sauces. C'est toutes les années 80 qui vous parlent, les gars. Il faut regarder les.
C'est une vidéo pour les nostalgiques, comme on dit.
Ah ouais, mais là en plus, si t'es nostalgique des coiffures en choucroute et tout, tu peux regarder. Hein. C'est juste la violence et du truc.
Écoute, je vais faire ça après le montage de ce podcast. Je pense que je vais aller me jeter là-dessus.
Ah ouais, prends des produits en même temps, parce que c'est à jeun, c'est compliqué à regarder quand même. Mais bon, je me suis dit que ça vous ferait marrer. Je connais mon public. Je pense c'est qu'il y en a bien 2-3 qui vont se dire tiens, et si je regardais ça au lieu de mater Netflix ce soir.
Ou de bosser.
Et je vous comprends.
Allez, on reste dans la culture, puisque ça y est, c'est officiel, le rachat de la Fox par Disney. On va enfin avoir, ça va enfin être officialisé. Ça fait 2 ans quand même qu'on l'annonce. On rappelle que c'est une transaction qui tourne autour des 70 milliards de dollars. Et elle sera officialisée le 20 mars prochain, donc c'est tout bientôt. Alors ça va évidemment avoir des conséquences d'un côté pour les fans du MCU, du Marvel Cinematic Universe. On l'a dit et on l'a répété à plusieurs reprises, puisque on va avoir le retour de toutes les licences Fox, c'est-à-dire les X-Men et les Fantastic Four notamment, dans l'escarcelle Marvel Marvel Studios, donc ça promet de nouveaux films et de nouvelles franchises plutôt sympas. Mais c'est aussi ça a aussi des conséquences du côté de l'emploi, parce qu'on parle quand même de 4000 suppressions de postes suite à ce rachat. Donc ça, c'est pas trop une bonne nouvelle. Alors il va falloir encore évidemment un peu de temps avant que ça se concrétise dans les faits par une vraie assimilation complète, parce qu'on parle quand même de deux gros géants de l'entertainment aux États-Unis. Et donc voilà, ça sera officialisé le 20 mars prochain, et après, bah voilà, le temps que tout ça se mette en route, je pense qu'il faut encore compter facilement une année avant que ce soit effectif et donc qu'on commence à avoir des conséquences dans le catalogue de Disney. Et puis j'en profite pour vous pluguer le nouvel épisode des Clairvoyants qui sortira cet après-midi, avec plein de choses à dépiauter, puisqu'on aura donc une analyse du film Captain Marvel qu'on a tous vu maintenant, j'espère.
Oui.
Et puis bien évidemment le nouveau trailer Endgame qui est sorti hier. Alors ça, c'est génial parce que ça n'arrive jamais. D'habitude on enregistre un épisode, le trailer sort juste après, et là c'est ce l'inverse.
Je suis limite déçu, moi. Ça vous facilite trop le boulot, je suis idée.
Voilà, on parlera de tout ça donc cet après-midi sur Geekzone dans le 54e épisode des Clairvoyants, je ne sais plus. Enfin bon, bref, vous verrez,
il y en a beaucoup,
voilà, il y en a déjà beaucoup. On passe du côté de la tech pour parler d'Android.
Oui, bon, et des trucs qui ferment. Alors ça, c'est Android. On parle d'Android, de Chrome OS et de la politique de Google en général, hein, qui, comme le faisait remarquer notre ami Quix sur Twitter hier, c'est quand tu achètes un produit Google, c'est un petit peu comme quand tu joues à la loterie, tu sais pas combien de temps ça va durer finalement, puisque l'année dernière, les gens qui se disaient qu'un jour Android pour tablette allait concurrencer l'iPad, ils ont dû ranger leurs arguments, puisque Google a dit bon, finalement les tablettes ça nous saoule, on arrête. Donc il n'y a plus de support officiel hein, d'Android pour les tablettes. Il y a des gens qui sortent toujours des tablettes sous Android, mais c'est avec des versions trafiquées, et si vous attendez des applications qui s'adaptent correctement au format tablette, vous pouvez continuer d'attendre. Il faudra peut-être un jour, avec les écrans pliables, dépliants, tout ce qu'on veut, on aura peut-être des trucs qui vont se mettre avec des looks adaptés, mais pour l'instant ce n'est pas au programme. Et l'annonce de cette semaine, c'est que Google se retire aussi du marché des notebooks en fait, et qu'il n'y aura plus a priori de nouveaux Chrome OS Pixel Notebooks, comme disent les Américains. Chrome OS sur ces ordinateurs qui étaient généralement des trucs un peu hybrides, hein, tu sais, avec le tablette, clavier qui peut se replier, etc. Ça servait un petit peu à tout, et c'était un concurrent de pas mal de notebooks d'entrée de gamme, voire un peu plus haut de gamme, hein, pour utiliser justement ça au niveau éducatif, justement. Donc toutes les écoles qui ont investi sur ce genre de produit doivent être ravies, puisque a priori ça va s'arrêter assez rapidement. Alors comment on sait tout ça? C'est qu'en fait Google est en train de retirer tous les ingénieurs et tous les gens qui sont en train de bosser sur ces trucs hardware sur d'autres projets. Il les retire de ce truc là pour les mettre ailleurs, et pour l'instant on sait pas exactement où justement, mais ça sent la fin pour ce produit. Je vais vous linker un long dossier de Apple Insider qui revient en détail sur justement ce qui se passe sur ce sujet. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Google essaye souvent de faire des trucs. Bon, t'as vu, généralement Google a du mal en fait à capitaliser sur Android pour gagner de l'argent côté hardware, ce qui est assez surprenant. J'avoue que j'ai jamais bien compris à quel point ils arrivaient à se rater là-dessus. C'est-à-dire qu'ils font des excellents téléphones, par exemple. Hein, on sait tous que les tests des Pixels, les derniers Pixels, sont dithyrambiques partout dans la presse. Tout le monde est là en train de dire que l'appareil photo est génial, etc. Alors après, il y a pas mal de monde aussi pour pointer du doigt les performances pures du Pixel qui sont pas aussi bonnes que sur certains téléphones chinois, par exemple, qui ont plus de puissance, plus de RAM, etc. Bon, mais bref, ça reste de bons produits, mais qui sont très mal distribués. Et avec un support direct qui n'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que Google, en gros, considère que ses produits ont une durée de vie de 2 ans. Quand tout le monde râle sur les iPhones, maintenant, faut savoir qu'Apple supporte quand même 5 ans d'iPhone, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on trouve du côté Android. Et que avec ce support de 2 ans, alors même si on a les patchs en temps réel et qu'on a vraiment les derniers patchs Android, côté matos, on se dit, au bout de 2 ans, il va falloir trouver des pièces détachées en passant par nos petits revendeurs chinois, etc., puis se démerder avec ses petites mimines. Et c'est un petit peu dommage, mais en tout cas du coup ça impacte beaucoup leurs ventes, et pour le moment ils arrivent vraiment pas à en vendre les caisses qu'ils devraient supposément pouvoir vendre en étant les patrons d'Android, tu vois. Donc moi j'ai toujours trouvé ça assez bizarre. Alors après ils marchent sur des œufs, puisqu'ils allaient concurrencer en direct des gens avec qui ils sont censés être partenaires, qui eux ne gagnent de l'argent que sur le matos, puisque Google va ramasser le pactole sur leur store à eux. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Bref, ça les met dans des positions parfois un peu chelous, et D'ailleurs, on apprend qu'il ferme également un studio qui était dédié à l'animation et à la réalité virtuelle, qui pourtant a gagné plein de prix, etc. Donc je vous link les papiers concernant ce truc-là aussi dans le billet qui accompagne le podcast. Mais bon, bah c'est pareil, hein, s'il n'y a pas vraiment de surprise, il n'y a pas eu d'update de leur produit qui le permettait de regarder tous ces trucs en VR. Je me rappelle plus du nom d'ailleurs de la dernière paire de lunettes qu'ils avaient sorties qui permettait justement de regarder tous ces trucs VR.
Je peux pas t'aider là.
Non, mais on en avait parlé, c'était en 2017. Il y a eu un énorme push en 2017 sur la VR. 2018, c'était plus calme, et puisque Apple avait un peu changé la direction de tout le marché en disant, bah, en fait, les mecs, la VR, tout le monde s'en fout. C'est plutôt la réalité augmentée qu'il faut booster. Et de fait, Google avait pris une fois de plus ses ingénieurs côté VR pour les mettre sur la R et développer un concurrent d'AirKit chez Apple. Mmh. Donc globalement, bon bah ils ont gagné des prix, ils ont fait des super trucs, ils ont de la tech, tout est là, mais ça décolle pas. Donc ils ont décidé de couper dans le gras et d'arrêter les frais. Et cette division va donc fermer ses portes. Mais vous pouvez continuer de regarder toutes ces productions qui s'appellent les Google Spotlight Stories qui restent en ligne. Y a aucun souci. Et si vous avez le matos dédié, bah c'est des trucs vraiment plus j'allais dire plutôt cool, mais on a dit qu'on arrêtait.
On va arrêter avec ça. Si ça se trouve, on l'a dit, en fait, j'ai pas fait attention, je t'avoue. Si ça se trouve, on l'a déjà balancé 10 fois.
Tu l'as balancé, mais j'ai rien dit parce que comme ça, je me suis dit, il va le voir au montage et ça sera drôle.
Non!
Si, moi, je suis comme ça. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça et puis, on regardera ce que ferme Google la semaine prochaine.
C'est ça.
Tous ensemble, mais voilà, je comprends pas des fois dans quelle direction ils vont, les braves gens. Mais parfois, tu vois, là, ils engagent du monde. Donc là maintenant, on sait qu'ils vont faire du jeu vidéo, par exemple.
Ouais,
je ne sais pas combien de temps ça va durer, puisque tu vois, des fois ils partent très 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 fort dans une direction et puis ça s'arrête. Mais là, on a appris aussi qu'ils avaient débauché
Jed Raymond.
Ouais, Jed Raymond, donc on en parlera peut-être la semaine prochaine. Pour l'instant, tout le monde a fait les papiers dessus, mais on sait absolument pas de quoi il va s'occuper. Et les annonces normalement vont être faites pendant la GDC, donc on va attendre d'avoir des vraies informations pour en parler. Hein,
ben voilà, c'est mieux. Et c'est la fin de ce 82e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. D'ici là, bon week-end. Bon week-end, Caf.
Mais bon week-end, Faskil.
Fais pas de rangement, hein. Arrête avec ça.
Non, j'arrête et je profite de la belle météo de. Non, je déconne, il fait plein de merde. Donc, je ne range plus, mais je pense qu'on trouvera de quoi s'occuper. Il n'y a pas de souci, mais j'arrête de débrancher des machins et des bidules. Je ne sais jamais comment ils étaient branchés avant. Après, c'est une horreur.
Allez, à la semaine prochaine. Ciao.
Ciao.
Un podcast signé Faskil. Faskil.com.
Les Clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskil, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorycrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers.
I care how you speak. Loki is beyond reason, but he is of Asgard, and he is my brother.
He killed 80 people in 2 days.
He's adopted.